RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le Qatar se place comme acteur international du sport et l'émirat a su émerveiller ces dernières années les comités de sélection à grand renfort d'infrastructures flambant neuves. Le pays a été choisi pour accueillir le mondial de football de 2022, mais aussi les mondiaux d'athlétisme en 2019 et le championnat du monde de hand masculin à partir du 15 janvier. Cette compétition est un test pour le Qatar qui doit prouver au monde sa capacité à organiser un championnat international. Alors question, le Qatar est-il prêt? Le Qatar, pays organisateur du mondial de hand, c'est le grand reportage de Lakshmi Lotha. Lakshmi que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Petit pays désertique, avec ses températures autour de 50 degrés les mois les plus chauds, mais 25 degrés l'hiver. Émirat décrié pour le traitement qu'il réserve à ses travailleurs pauvres immigrés. Le Qatar n'apparaît pas comme le candidat idéal pour organiser de grandes compétitions sportives internationales. Mais qu'importe les critiques et les doutes, l'émir père, Cheikh Hamad, puis son fils aujourd'hui, Cheikh Tamim, veulent faire de leur pays une terre d'accueil du sport. Les moyens ne manquent pas dans la monarchie du Golfe. Pour ce mondial de handball, les Qatariens savent que leurs détracteurs les attendent au tournant. Nous sommes en périphérie de Doha, au beau milieu du désert. Soudain apparaît une forme de gros ballon aplati. C'est le tout nouveau complexe multisport de l'USAIL. Il a été construit en moins d'un an. C'est ici que vont se jouer notamment les phases finales du mondial de handball. À l'intérieur, on croit entrer dans un centre de conférence. Des lustres brillants au plafond, des canapés confortables à l'accueil. Mais un peu plus loin, c'est bien un terrain de handball. Le comité organisateur 2015 a invité les ambassadeurs des nations participant au tournoi à visiter les lieux et à découvrir l'hymne officiel de la compétition.
Ce que vous entendez, c'est l'hymne officiel de la compétition. Il est interprété par 24 chanteurs et musiciens des 24 nations participantes. Ils ont tous collaboré à la chanson avec différents instruments de leur pays.
Shera Asma Al-Thani est la directrice marketing du comité organisateur. On la voit affairée dans son abaya noir, la robe traditionnelle des Qatariennes. Elle dit ne pas avoir une minute à elle, mais accepte de répondre à quelques questions au bord du terrain.
Nous avons enregistré cette chanson au Qatar, en France, en Espagne, au Brésil et même en Égypte, dans plein de pays. Les percussionnistes du Qatar ont voyagé avec les chanteurs partout dans le monde. Cela parle de l'unité, de l'esprit sportif, de la manière d'accomplir ses rêves. Nous sommes tous semblables.
We are all one.
Les ambassadeurs ont surtout été convoqués pour évoquer une crainte des Qatariens, des tribunes vides de spectateurs. Ils sont donc invités à élaborer une stratégie pour faire venir leurs ressortissants au match. Éric Chevalier est l'ambassadeur de France au Qatar.
Un des soucis du Qatar, et on peut le comprendre, c'est que les événements sportifs qu'ils organisent dans de très belles infrastructures soient aussi des événements qui soient vivants. Et pour qu'ils soient vivants, il faut que notamment les communautés des pays participants aux épreuves répondent présentes. C'est bien d'avoir des événements festifs, des événements joyeux. Le sport, c'est aussi la joie, c'est l'esprit collectif, c'est l'ambiance. Il y a du handball au Qatar, donc oui, je pense qu'il y aura des Qatariens, absolument.
Aux côtés de l'ambassadeur de France, d'Algérie ou encore du Brésil, Mohamed Draïef, l'ambassadeur de Tunisie au Qatar. Pour lui, l'équipe tunisienne a une renommée telle qu'elle suffira à faire venir du monde.
Effectivement, la Tunisie a une belle équipe de handball. Et ça, on va le voir bientôt, dans quelques jours. J'ai confiance. Si on consulte les résultats des autres championnats, des participations sportives, je crois que nous sommes une équipe qui est en train d'avancer. Et c'est ça le plus important. C'est d'avancer dans le cadre du sport.
Est-ce que vous pensez que les Tunisiens du Qatar ou de la région vont venir encourager l'équipe?
Ah, certainement. Ah oui, certainement. Déjà, ils s'apprêtent. Et actuellement, nous avons quand même le nombre de Tunisiens ici comment avoisine les 20 000. Donc, vous allez voir, donc, ils vont certainement venir, et surtout que ça va coïncider avec un nombre d'événements. Nous, on termine actuellement les élections en Tunisie, donc c'est une atmosphère de paix, de réconciliation qui va avoir lieu en Tunisie, qui va rejaillir un peu partout sur les Tunisiens vivant ici à Doha. Et la participation de l'équipe nationale sera donc une occasion de montrer l'attachement à cette Tunisie. Bien sûr, je dis bienvenue, venez nombreux.
La directrice marketing, Shera Asma Altani, a elle prévu des divertissements pour attirer la population.
Notre organisation va vous étonner. Nous allons surprendre le monde. Il y aura d'incroyables divertissements avec une belle et grande surprise pour la cérémonie d'ouverture. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation au sujet de l'équipe nationale dans les écoles du pays. Tout le monde est très enthousiaste ici, les gens sont patriotes. Les Qatariens ont hâte de venir et de participer à ce championnat.
Les Qatariens n'ont pas l'habitude de se rendre dans les stades et complexes sportifs pour assister aux compétitions. Cela se fait plutôt à la maison, dans le majlis, le salon d'accueil des invités, et devant la télévision. Alors pour remplir les gradins, les fédérations engagent des ouvriers. Un peu d'argent, un maillot et un repas leur sont offerts pour venir voir des matchs. Des spectateurs qui applaudissent, pour les images de la télévision, c'est plus joli. Un autre complexe de handball, sorti de terre en 12 mois à peine, celui d'Al Sadd, d'une capacité de 7700 spectateurs. Il a été inauguré en novembre dernier pour la Coupe des clubs asiatiques. L'événement n'a pas attiré les foules. Le français Johan Boisedu est l'arrière-gauche de l'équipe de l'Arouya, installée au Qatar depuis 2013.
Ouais, disons qu'on est là un peu pour tester les structures. Donc pour l'instant, on le fait très bien. Donc,
les structures sont belles alors, c'est bien.
De jouer dans des salles pareilles, c'est du grand plaisir. Il n'y a rien à dire.
En revanche, les spectateurs, pas vraiment là.
Oh, ça commence, on va dire, comme on dit ici, chouaille chouaille. Donc ça va venir petit à petit, je pense, au fur et à mesure de la compétition.
Vous pensez qu'il y aura un engouement pour ce mondial ?
Ouais, je pense qu'il y aura, en tout cas, le spectacle risque d'être à la hauteur de l'événement, quoi. Je veux dire, avec les infrastructures qu'ils ont fait et ce qu'ils prévoient de faire par la suite, je pense que oui, il y aura de l'engouement. Ouais.
Johan Boisedu était cité parmi les joueurs que le Qatar aurait pu naturaliser pour le mondial, mais il n'a finalement pas obtenu son ticket. L'Émirat n'a pas l'intention de faire de la figuration lors du championnat. Ses preuves, le pays doit aussi les faire sur le terrain. Alors, l'équipe nationale a-t-elle ses chances, Johan Boisedu ?
Alors là, de ce que j'ai vu, voilà, déjà les infrastructures sont là, sont présentes, donc ils attendent l'événement avec impatience. Maintenant, l'équipe qatarienne, je crois qu'ils se préparent de la meilleure des façons possibles. Ils ont des bons résultats, ils en ont eu beaucoup de positifs par le passé. Ils ont encore du temps devant eux, je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose d'intéressant. Voilà.
Les moyens utilisés par le Qatar, ce sont les grands noms et les naturalisations. Avec 150 000 Qatariens à peine dans le pays, il y a peu de licenciés, un maigre intérêt pour la discipline. Une carrière sportive n'est pas intéressante pour un Qatarien, il n'a pas besoin de tremplin social. En novembre dernier, le Monténégrin Zarko Marković et le Bosnien Daniel Saric ont été naturalisés. De quoi renforcer l'équipe nationale. Sami Saidi est l'entraîneur de l'équipe locale d'Al Quyada.
Je crois que le Qatar, avec tous les moyens qu'ils ont mis, ils visent quand même au minimum l'un quart de finale de ce championnat du monde.
Et pour vous, ça semble réalisable ?
Il y a quand même la qualité au niveau des joueurs. Il y a certains joueurs qui ont l'expérience. On voit les nouveaux qui ont intégré, comme Saric, c'est un joueur de Barcelone. C'est un grand calibre quand même, c'est un grand nom au niveau handball. Marković, l'arrière droit, qui a fait quand même pas mal de saisons à Hambourg, il a gagné pas mal de titres et même la Champions League européenne. Ces joueurs-là, c'est sûr, ils vont apporter énormément de plus pour cette équipe-là. Juste, il faut la cohésion, il faut l'entente, il faut que ça soit un groupe, pas des individualités, pour remporter des résultats positifs au niveau de ce championnat du monde.
Les naturalisations ne choquent pas Sami Saidi.
Écoutez, la naturalisation aujourd'hui se fait partout dans le monde. Mais moi, je les ai vus, sincèrement. On parle de naturalisation, mais je les ai vus sur le terrain. Et c'est des gens qui se battent pour le maillot du pays. C'est des gens qui se donnent à fond pour ce pays-là, qui chantent et qui ont appris l'hymne national qatari. Je les ai vus plusieurs fois. Et aussi parce que ce pays-là a donné énormément à ces joueurs-là. Il leur a donné une chance de rejouer ces compétitions-là que leur pays ne leur a pas donné.
Certains sont là depuis des années.
Oui, oui, oui. Je connais, par exemple, il y a Wajdi Snan, un joueur tunisien. Ça fait peut-être plus que 7-8 ans, même plus, qu'il est dans cette équipe nationale-là et qui a évolué depuis les catégories jeunes. Donc, quand on voit un joueur qui intègre l'équipe nationale qatari, cadette, junior et senior, pour moi, aujourd'hui, c'est un joueur qatari. Ce n'est plus tunisien, ce n'est plus bosniaque, ce n'est plus d'autres nationalités. C'est sûr que aussi le joueur, il fait ce choix parce que il y a aussi le côté financier qui le ramène ici.
Le secrétaire d'État français au sport, Thierry Braillard, sera spectateur de ce mondial pour soutenir la France qui veut récupérer son titre. Pour lui non plus, il n'y a pas de concurrence déloyale de la part du Qatar.
Il y a des règles internationales qu'il faut respecter, donc ils sont bien obligés de se soumettre, comme tout le monde, comme la France, comme tous les pays, de se soumettre aux règles d'une fédération internationale. Donc à partir de là, si la fédération internationale valide, il n'y a rien d'illégal.
La Fédération internationale de handball autorise un joueur à changer de maillot s'il n'a pas été sélectionné depuis 3 ans dans une autre équipe nationale. Le Français Bertrand Roinet fait partie de ces joueurs naturalisés. Le champion du monde 2011 avec l'équipe de France jouera sous les couleurs bordeaux et blanc du Qatar. Le pays veille sur son équipe nationale comme sur un trésor. La communication est verrouillée. Impossible d'approcher les joueurs. Malgré de multiples demandes d'interview et l'accord de Bertrand Roinet, ce dernier n'a pas obtenu le droit de nous parler. L'émirat n'est pas un champion de la communication et 15 jours avant le championnat du monde, cela se voit dans les rues de Doha. Rien n'indique qu'une telle compétition va avoir lieu. Il a fallu attendre les derniers jours pour voir des affiches et des drapeaux installés. La signalétique pour trouver les salles de sport est quasi absente. Dans l'une des rues qui mène au 3e complexe de handball à Douheil, des travaux ont même commencé, comme si de rien n'était. La capitale se prépare aussi à accueillir le mondial de football de 2022. Doha est en travaux, la circulation y est difficile. En décembre, lors des championnats du monde de natation en petit bassin qui se sont tenus à Doha, certaines équipes sont arrivées en retard à cause des embouteillages. Mohamed Jabor Al-Moula, le directeur général adjoint du comité organisateur, y a pensé.
Pour éviter les problèmes de circulation et d'embouteillage, nous avons un plan à part entière. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur et le département de la circulation routière. Nous allons faciliter les trajets des spectateurs, des fans, des équipes, des sportifs, de leurs hôtels au complexe de sport. C'est la mission de notre transporteur national, Mongwa Salat. De toute façon, les 3 complexes de handball ne sont pas très éloignés les uns des autres. Il faut à peine 10 minutes pour aller de l'un à l'autre. C'est l'avantage d'organiser une compétition dans une seule ville.
10 minutes ? Vous êtes sûr ? J'ai mis une heure pour arriver jusqu'ici à Al-Sadd.
Disons 15 minutes maximum. Mais à Al-Sadd, il y aura des voies réservées au bus de Mouha Salat pour faciliter les choses.
Transport, logistique, accueil, compétition, le Qatar pense avoir tout prévu pour faire la fierté du monde arabe. Depuis 2013, l'Émirat se paye les services d'un champion du monde, l'entraîneur espagnol Valero Rivera. Le coach avait mené l'Espagne au sommet en 2013. Le meilleur classement de l'équipe qatarienne de handball pour l'instant à un mondial, une 16e place, c'était en 2003 au Portugal. Depuis, le Qatar a rebondi, il est devenu champion d'Asie en février dernier et a remporté la médaille d'or des Jeux asiatiques face à la Corée du Sud en septembre. Cela suffira-t-il ? Venu avec une grosse caisse et des tambourins à un match amical, ce rare supporter qatarien, Saïf, 17 ans, veut y croire.
On est venu avec des amis en bus. On utilise nos propres instruments comme ces tambourins. On danse, on chante pour l'équipe du Qatar. Ça veut dire « Célébrons notre équipe. Avec l'aide de Dieu, nous gagnerons. »
Qatar, pays organisateur du Mondial de handball, un grand reportage de Lakshmi Lotha, réalisation Marc Minatel. The time is now, the chance is yours, to come together and to be united, sing and dance, spread the joy, the dream is ours, and together we're touched and guided. Set the fight, earn the right. Lakshmi Lotha, bonjour.
Bonjour.
Alors cette préparation du mondial de hand au Qatar, c'est un peu faite dans le secret. Alors votre travail a été semé d'embûches, racontez-nous s'il vous plaît.
Oui, il faut dire que là, le Qatar met quand même en jeu son image pour cette compétition, ce championnat du monde. S'il échoue, le monde entier lui tombera dessus. On lui reproche d'avoir obtenu le mondial de football en 2022, les mondiaux d'athlétisme en 2019. Le Qatar n'a pas droit à l'erreur. Du coup, il se méfie de ceux qui veulent parler de lui. Alors pour vous donner un exemple, il m'a fallu plusieurs semaines pour obtenir un entretien avec la responsable de la communication du comité organisateur 2015. Dans son entourage, on me répondait qu'elle n'avait pas le temps. Alors si la personne chargée de la communication ne peut pas répondre, le travail des journalistes devient évidemment un peu compliqué. Une autre anecdote, j'en parle dans le reportage, l'interview manquée du joueur français Bertrand Rouanet, naturalisé qatarien. Un mois de demandes officielles, orales, écrites, avec questions envoyées, relances, pour finalement prendre rendez-vous moi-même, directement auprès de lui. Et il était d'accord pour répondre à mes questions, mais à la dernière minute, un manager s'est interposé en coulisses et a dit au joueur qu'il n'avait pas l'autorisation de parler. Ce manager n'a même pas voulu me rencontrer pour discuter. Pour un autre responsable, j'ai dû attendre plusieurs heures, en vain, tout simplement parce que son équipe de communication n'arrivait pas à le retrouver dans les loges VIP où on avait rendez-vous.
Alors vous le dites dans votre reportage, le Qatar a du mal à communiquer, et même visuellement, sur ce championnat.
Jusqu'à la semaine dernière, on pouvait surtout voir des drapeaux qatariens dans les rues à cause de la fête nationale du Qatar le 18 décembre. La responsable marketing du comité organisateur m'expliquait qu'ensuite, normalement, les couleurs orange et violet de la compétition devaient prendre le dessus. Mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup de panneaux publicitaires à ce sujet, ou très peu. Il n'y a pas eu grand-chose pour annoncer l'événement à la population, et même l'hymne officiel, la chanson qui se veut entraînante qu'on a pu écouter, n'est pas diffusée sur les radios nationales. Il y avait plus d'affiches, par exemple, grand format, de décorations, pour la venue du club de football Paris Saint-Germain, pour son stage en décembre 2013 à Doha, ou pour le tournoi de tennis ATP. Il existe pourtant une mascotte de la compétition, c'est Fahad. Il s'agit d'un jeune Qatarien en habit traditionnel. Cette poupée commence à être vendue dans les malls et on retrouve son effigie sur des t-shirts ou des coussins de voyage pour l'avion. Il a fallu attendre d'être à J-10 pour voir des drapeaux dans les rues de Doha, souhaitant la bienvenue dans plusieurs langues aux nations participantes.
Si tout se passe bien pour ce mondial, le Qatar aura réussi son test. Prochaine étape, il rêve d'organiser les Jeux Olympiques.
Effectivement, c'est le prochain défi du Qatar, obtenir l'organisation des JO. À une autre échelle, il a déjà accueilli les Jeux asiatiques de 2006 et les Jeux arabes en 2011. Depuis qu'il prépare le mondial de football pour 2022, rien ne semble impossible au petit Émirat. Mais comme le disait l'ambassadeur de France au Qatar dans le reportage, dans le sport, il n'y a pas que de belles infrastructures, c'est aussi l'ambiance, le spectacle, l'accueil, la convivialité. Et là, le Qatar a encore beaucoup de travail devant lui. Même si on a pu voir lors de matchs amicaux récemment des chauffeurs de salle, ça c'est nouveau, avec des groupes de supporters qui chantaient certes un peu trop fort et des tentatives de holà.
Ce sera le mot de la fin. Lakshmi Lotha, merci beaucoup. Bonne journée. RFI, la sélection.